toi. 98.1 Radio X.
Hey, notre invité est en studio, il vient d'arriver, on a eu le temps de jaser, il a fait le tour de la station, il a rencontré Denis, il n'avait pas encore rencontré Denis, je pense que c'est ton chum qui avait rencontré la gang du retour cet été avec Rich qui était à la barre, Marc Desgagné d'M2 Gaming, comment ça va?
Ben salut, comment ça va les amis?
Ça va très bien,
oui.
Merci d'être là.
Ouais.
Oui, ben merci à vous autres de me recevoir encore une fois.
Ben là, c'est toujours un plaisir, merci à toi de te présenter. Je te pose une question Marc, qu'est-ce qui est le plus payant entre l'industrie du cinéma puis l'industrie du jeu vidéo?
Ben, depuis quelques années, bizarrement parlant, puisque tout le monde pense que c'est le cinéma qui est encore au top. Et non, c'est l'industrie du jeu vidéo qui est la plus... des derniers chiffres que j'avais vus, c'était ça, qui générait le plus de rentrées d'argent.
Et parfait. D'autant plus dans les derniers mois, j'imagine.
Hein? Ben, oui, avec ce qu'on a parlé à la dernière critique, la dernière chronique. Oui, confinement, ça a fait sauver des vies, jouer à des jeux, sauver des vies.
Mm-hmm. J'ai les stats de 2018.
Ouais. Okay.
Le marché du jeu vidéo a généré 43,4 milliards.
Okay.
C'était une augmentation par rapport à l'année précédente. Là. Puis le 43,4 milliards, c'était aux États-Unis.
Mm-hmm. Seulement.
Seulement. Puis c'était une augmentation de 18%, notamment si on compare avec l'année précédente. Puis on va se le dire, 2018, c'est l'année où le jeu Fortnite a sorti.
Ouais. Ah.
Okay. Donc peut-être que ça l'a aidé un peu. Puis le box-office mondial. Fait que là, je te dis, juste pour les États-Unis, c'est 43,4 milliards de dollars de revenus aux États-Unis, le box-office mondial, Chloé, ce serait quoi?
On doit pas être loin de ça en même temps. C'est au niveau mondial.
Ouais, ben tu sais, je vais t'aider, je vais y aller avec les États-Unis, tiens, ou l'Amérique du Nord, ouais.
L'Amérique du Nord.
Fait que les États-Unis puis le Canada.
Je dirais peut-être un 200 milliards, ouais. Fait que là, je dirais le quadruple, OK.
Non, c'est 41,7 milliards.
Bon, ça va pas loin.
Ah!
Attends un peu, je t'ai mélangé. C'est 41,7 milliards total mondial.
OK.
Ah.
Puis aux États-Unis, c'est 11,9 milliards avec le Canada.
J'avais de l'ambition avec 200 milliards.
Ouais.
On est à quelques milliards de plus maintenant pour le jeu vidéo.
Puis si tu isoles... Exact. Si
juste pour un endroit, là. Pour les États-Unis.
Ouais. Si tu isoles Fortnite a généré combien en 2018?
Boy, j'ai pas checké ça. Voyons donc.
2,4 milliards de dollars de revenus en 2018.
C'est pas pour rien, ils ont gagné des prix, puis ils ont gagné des prix, puis des prix, puis des prix.
Puis encore à ce jour, quand je vous vois jouer à ces affaires-là sur les, sur les réseaux sociaux, je ne comprends absolument rien.
Quand tu dis « vous », je me sens pas inclus.
Non?
Non, moi non plus que... non.
Surtout la grosse mode de Twitch, là, de regarder des gens jouer à des jeux vidéo, c'est dur à comprendre. Mm-hmm.
Oui, puis nos jeunes regardent ça, je pense qu'on le fait aussi, peut-être que vous autres aussi, mais tu sais, regarder des vidéos sur YouTube pendant une soirée de temps, hein, t'en trouves un, il y en a un autre qui part, il y en a un autre qui part. Première affaire que tu sais, c'est que ça fait une heure que tu regardes des vidéos sur YouTube. Fait qu'on est tout un peu, tu sais, on veut voir.
On est voyeurs, puis il y a des affaires
qui nous accrochent.
C'est des jeux que les jeunes jouent déjà, donc ils connaissent quand même le jeu, puis... ils comprennent un peu ce que...
Oui, puis ils en découvrent beaucoup. Ils en découvrent beaucoup par là aussi. Okay, là. Même nous autres, au niveau des artistes, si tu prends juste la musique, là, t'en découvres un dégât par là en faisant ça. Puis des jeux vidéo, il y a tellement... Puis même à un moment donné, je pense qu'on va faire une chronique juste là-dessus.
Ben oui.
Le nombre de studios que vous connaissez pas, qui sont ici dans notre cours, il y en pleut, là. Il y a beaucoup plus. Si tu penses que, mettons, il y a 3-4 studios, là, non, il y en a pas mal.
Juste à Québec.
Plusieurs dizaines juste au Québec.
Oui.
Ben, que vois-tu, puis il y a bien des gens qui les connaissent pas. Des fois, c'est en voyant des jeux que tu vois, mettons, produits par telle place.
Mm-hmm.
Puis là, tu te renseignes, puis tu dis « Hein, regardons ça, c'est de Montréal. Hein, regardons ça, ils sont à Québec. Hein? » Il y en a plein.
Mais quand on pense à Fortnite, là, souvent on dit « Ah, ben les gens jouent à ça parce que c'est gratuit. » Comment les gens de Fortnite réussissent à se faire en 2018 2,4 milliards de dollars?
Les microtransactions. Tu sais, t'as acheté des skins, là, tu changes la couleur de ton fusil, tu changes ton apparence, tu t'achètes un casque en forme de coq, tu t'achètes des culottes en forme de scie, des souliers de clown, toutes sortes d'affaires comme ça. Là.
Okay.
Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que t'achètes dans le jeu. Fait que passe la petite carte de crédit ou achète. À un moment donné, à coût de 2$, 3$, à un moment donné, ça chiffre, là, puis tout le monde, quand t'en achètes plein, des skins comme ça, là, comment tu penses qu'il en existe? Il y en a des milliers. Là. Fait que c'est comme ça que l'argent rentre comme de l'eau.
Okay.
Puis ça, c'est très... Je te dirais pas que c'est mitigé, pas mitigé, mais tu sais qu'il y a une partie des gens qui détestent les microtransactions, puis il y en a une autre qui aime ça.
OK, mais dans mon cas, moi, là, si je veux essayer Fortnite, là, bon, ça va être gratuit, c'est ce qu'on me dit, mais je peux-tu jouer à Fortnite sans que ça me coûte jamais rien?
Oui, mais tu seras probablement pas bon.
parce que je vais me faire tirer tout le temps.
Ça arrive souvent comme ça. T'sais, ils essaient de faire en sorte, ils apportent des mises à jour au jeu pour faire en sorte qu'on équilibre les choses pour ne pas avantager des joueurs par rapport à d'autres comme ça. Si un joueur dépense, je sais pas moi, 100$ d'extra, ben c'est sûr que lui, son 100$ d'extra, il veut que ça paraisse comme qu'il joue. Là. Dans certains jeux, ça paraît. C'est comme ça. Fait, mais tu sais, en même temps, ils essayent de faire en sorte que le gap entre les deux soit pas trop grand non plus pour pas décourager tout le monde. Parce que si tu rentres dans un jeu où ce que tu vas te faire tuer quasiment à 2 secondes, à chaque fois que tu essaies de commencer une partie, tu te fais tuer, ben là, à un moment donné, tu décourages plus ton consommateur qu'autre chose. Fait que tu l'encourages pas à continuer.
Pierre dit, parle-moi-en de ce jeu gratuit. Mon gars m'a coûté 1600$ en 2019, juste en... un équipement sur Fortnite.
Ouais.
Il n'y a rien de gratuit là-dedans.
Non. Ça s'appelle soit des... Il y a des free-to-play ou des pay-to-win. Tu as tout ce mode de jeu-là qui va fonctionner en fonction justement des add-ons que tu vas acheter puis plein de patentes comme ça, ouais. Cossins, des améliorations. Ça va te donner des avantages. Il y en a d'autres qui en ont, mais c'est juste du look. Fait que, tu sais, mais il y a beaucoup de gens que quand ils font pas attention, si, mettons, il y a la carte de crédit de papa ou maman dans le compte, ben...
Ouais, c'est ça que je me pose comme question. Une fois que je rentre ma carte de crédit, là, ouais. Indéfiniment, elle va être dans le jeu, là.
Ben, tu peux l'enlever, là.
Ah, je peux l'enlever.
Ouais, oui, il y a une partie qui est aux parents de gérer ça, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu mets des choses à ton enfant qui a 10-12 ans, puis tu mets une carte de crédit accessible dans le compte, ben, ça se... Puis tu vérifies jamais rien. Mais ça se peut que. Il y a des risques, là. Parce qu'en plus, la plupart des consoles vont avoir des étapes de vérification. Ça va demander, mettons, d'entrer un mot de passe pour utiliser la carte de crédit, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Fait que tu peux bloquer, d'une certaine façon, l'accès ou l'achat en ligne à tes enfants comme ça. Mais c'est sûr que si tu ne fais pas attention à ça, parce que tu ne connais pas le fonctionnement des consoles, ben les enfants sont morts de rire. Puis à un moment donné, ben, tu te ramasses comme monsieur avec un bill de 1600$. Il la trouve pas drôle quand ça arrive.
OK. Puis est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo, ça? Fournir des jeux gratuits dans lesquels tu peux faire certains achats?
C'est dur à dire. Je te dirais que ça a fait un temps. Ça commence peut-être... Je dirais pas que ça commence à s'essouffler en tant que tel, mais comme je te disais, il y a beaucoup de gens que les microtransactions, ça commence à les vraiment les rébuter. Ils n'aiment pas ça, puis ils vont se tenir loin de ça. Ils vont même l'interdire à leurs enfants.
Mm-hmm.
Donc, il y a peut-être une genre de hargne qui est en train de se faire envers ce type de jeu-là. Puis ça paraît parce que dans certains jeux ou certains éditeurs qui étaient habitués de fournir des jeux avec du contenu vraiment comme ça, microtransactionnel,
ouais.
Ils commencent à dire « Ah, regardons, dans le nouveau qui s'en vient, on n'aura pas de microtransactions. » Fait qu'ils ont comme compris une partie du message de dire « Bon, on va s'abstenir de faire ça. »
OK. Fortnite ne serait pas un jeu « pay to win ». Pay to win, j'imagine c'est ce qu'il voulait dire.
Non, pas lui, ouais, pay to win.
Tu peux acheter des skins de jeu, mais il n'y aurait aucun avantage à payer sur
ta... Non, ça je dis, t'as des types pay to win, puis t'en as d'autres, c'est des free to play.
OK, voilà. Mm. Voilà.
À donc, quand le last call en direct, tu joues à Fortnite puis tu réponds aux auditeurs en même temps?
Ouais, je peux pas faire deux choses en même temps. Les auditeurs s'en rendent compte, quand je fais deux choses en même temps, là, je parle...
C'est vrai, hein?
Déjà que je parle tout croche d'habitude, c'est encore pire quand je fais deux affaires en même temps. Donc, on est avec Marc Dégagné d'M2 Gaming. Oui. Si vous avez des questions pour lui, vous pouvez les poser par texto sans aucun problème. 418-670-9098. 418-670-9098. Ça fonctionne par texto. On parle de la guerre des consoles ce soir.
Ben oui, ben comme on avait parlé à la dernière chronique, évidemment, au mois de novembre, décembre, dans ces eaux-là, on devrait avoir une semblant... Je vais mettre le mot « guerre » en parenthèse ou entre guillemets, guerre de consoles avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Pourquoi je le mets de parenthèse ou entre guillemets? C'est peut-être parce que la guerre, comme on la connaît ou on l'a connue dans le passé, ça ne sera pas nécessairement de la même façon qu'on l'a connue justement dans le passé, parce que les deux consoles qui s'en viennent, plus on en découvre ou plus on a d'informations au sujet des deux, bien, on se rend compte que l'idéologie derrière chacune d'entre elles, c'est vraiment pas la même affaire. Ils visent pas le même genre de stratégie au niveau marketing. Puis ça va être dur de comparer les deux ou déclarer un vainqueur. Parce que pour déclarer un vainqueur, il faut que tu trouves une base sur quoi dire OK. On l'établit sur quoi, ce gain-là ou cette victoire-là? Sur le nombre de consoles vendues? Sur l'argent que ça a rapporté à l'éditeur?
J'irais avec la popularité de la console.
Ben, tu parles la popularité en termes de vente.
Oui,
okay,
le nombre de consoles qui ont été vendues. Ben, un peu comme les albums dans le temps des artistes.
Sauf que les consoles qu'on a présentement, je te dirais, ça a commencé dans la génération précédente aussi, mais présentement, puis ça va être encore plus fort dans la génération qui s'en vient, ça va être beaucoup les services. Parce que là, on s'en vient, tu sais, tu vas avoir un Netflix du jeu vidéo un peu. Comme, mettons, si tu prends Xbox, ben, ils ont ce qui s'appelle le Xbox Game Pass. Xbox Game Pass en vient avec le Xbox Game Pass Ultimate qui va rapatrier à peu près tous les services qu'il y a chez Microsoft pour faire en sorte d'être tout, rien que dans un package. Tu vas payer tant par mois, puis là, ça va te donner accès gratuitement. Gratuitement, manière de parler, tu payes par mois, mais comme Netflix, tu vas pouvoir aller essayer des jeux n'importe quand, n'importe comment, des démos, tu vas avoir accès à plein d'affaires comme ça. Ton service, ton cloud, le X-Cloud, ben, va faire en sorte que, mettons, tu es chez toi en train de jouer sur ta Xbox, tu décides, faut que tu ailles travailler, tu veux continuer le midi sur ton cellulaire qui accepte le service X-Cloud, ben, tu embarques dessus, tu continues ta partie sur ton cellulaire.
Ouais. Ils ont pas essayé de faire un jeu vidéo de même, tu jouais directement sur ta télé, puis après ça, tu pouvais prendre ta manette puis t'en allais jouer, continuer ta game.
Ben, il y a la Switch qui fait ça. La Switch qui fait ça présentement. Puis je te dirais que c'est un peu l'hybride de tout ça.
Okay.
T'as Stadia aussi, Google qui a Stadia, qui a son service qui est un peu le même principe comme ça.
Ouais. Au départ, ça a été difficile pour Stadia.
Ben, je te dirais oui, puis ça l'est encore parce que le marketing, je trouve que ça fait pitié.
Ouais.
Au niveau des prix aussi, il va y avoir bien des affaires. Ça fonctionne relativement bien. Moi, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais ceux qui ont fait les tests, apparemment que ça va quand même relativement bien. Sauf que là, il va rester à étoffer la bibliothèque de jeu, puis aussi faire en sorte que le service soit accessible sur le plus de plateformes possible. Parce que là, je sais que comme pour les téléphones, ça prenait vraiment un téléphone d'un type, je me rappelle pas lequel, mais ça en prenait un. Il fonctionnait pas encore sur iOS, ça marchait juste sur les Android, si je me rappelle bien. Fait que tu sais, tant qu'ils n'ont pas ça, puis que c'est disponible vraiment partout, ben le service n'est pas à son plein potentiel, comme ils l'annoncent ou comme ils le veulent, tu sais. Fait que Microsoft arrive un peu avec ce principe-là, avec ce que je te parlais. Sony a autre chose. Puis Sony, ben pour la PlayStation 5, comme je disais tantôt, ben eux autres, ils visent pas... Oui, les services vont être là, ils vont en offrir, mais on dirait qu'eux autres, ils veulent aller carrément dans un autre allée. Puis là, ils veulent proposer une console qui est vraiment unique, vraiment propre à eux autres, avec des choses spécifiques, comme, mettons, si tu as un jeu qui est développé pour la PlayStation 5, ben tu n'auras pas de version PlayStation 4 rétro-compatible, ou bien downgradé, si tu veux, là. Fait que, tu sais, ce qui va être vraiment sur PlayStation 5, ça va être exclusif, ça va être ça. Tu veux jouer à ce jeu-là, t'as pas le choix d'avoir la console.
Tu joues-tu aux jeux vidéo, Chloé?
Non.
Non? Puis, mettons, tu joues des chums qui jouent aux jeux vidéo?
J'ai déjà eu des chums qui jouent aux jeux vidéo.
C'était-tu Xbox ou encore PlayStation?
Je sais pas.
Parce que moi,
je
là...
Je connais rien là-dedans.
La seule raison pour laquelle j'achète des Xbox... Parce
NHL?
Que ben oui, là. Mais je trippe sur la manette, j'en ai déjà parlé.
Ah, ouais. Xbox?
Ouais, je trippe vraiment sur la manette. Je trouve que la manette est bien faite. Mm-hmm. T'as pas besoin de gosser longtemps pour trouver tes pitons, ça va bien. Puis j'ai de la misère avec la manette de PlayStation.
Ça se peut. Ben, je te dirais que dans l'industrie en général, là, je sais que là, tu vas avoir ton texto va se flooder. Mais oui, c'est comme considéré officiel que la manette de la Xbox est probablement la mieux conçue, la mieux faite, celle-là qui est la plus ergonomique.
C'est pour une fois que tu as l'impression d'avoir les mains pleines dans ta vie.
Oui, ouais, c'est ça.
Hein?
Exact. C'est pas un joke plate, mais...
c'est comme n'importe quoi, comme un iPhone, quand tu es habitué à une plateforme puis un outil, puis tu as de la misère à changer. Là.
Puis tellement que, ben oui, il y a beaucoup de gens qui ont vu la nouvelle manette de la PlayStation 5, justement, qui s'appelle la DualSense.
Ouais.
Ben, tout le monde a dit, tabarouette, c'est une manette d'Xbox.
Ouais, c'est pour ça, je voulais t'en parler
exactement.
Aussi.
Exactement. Fait que tu vois que peut-être que oui, c'est pas fou. Le design s'est adapté pour dire oui, on va prendre plus la forme de celle-là d'Xbox.
Mais la gang d'M2 Gaming, vous aviez pas fait un sondage sur la meilleure manette?
Il me semble que oui.
Oui, hein. Je pense que je me trompe pas, là. C'était partagé, là.
Oui, ben, exactement. Mais comme je te dis, il y a beaucoup de questions de goût. Puis dans les jeux vidéo, ça, c'est un autre domaine. Hein. Tu connais-tu ça, un fanboy? Tu sais quoi, un fanboy? Tu sais, quelqu'un qui a le mot Sony tempé dans le front, dans le dos, est tatoué. Ben, lui, parle-y pas d'Xbox parce qu'il va vouloir te crucifier dans les coins quelque part.
C'est un peu comme les gens qui trippent sur Apple, là, dans le temps.
Ben, c'est exactement pareil.
C'est ça.
Sauf que quand t'es gamer, un vrai gamer, là, je veux pas faire de peine à personne, mais un vrai gamer joue à n'importe quoi, n'importe où, en autant que c'est bon, parce que peu importe la console que t'as, c'est pas la console qui fait la qualité d'un jeu. C'est le jeu.
Mm-hmm.
N'importe quoi, là, t'as bien beau mettre ça, si ça roule puis ça fait un beau jeu sur, je sais pas, un toaster, ben c'est un beau jeu pareil.
Mais ça se peut que tu sois meilleur parce que t'es habitué à une console, puis ça fait que justement tu vas vouloir jouer aux jeux qui sont disponibles sur cette console-là.
T'sais. Ouais, ou habitué avec les contrôles, la manette ou l'environnement, tu vas aimer mieux certaines choses. T'sais, tu peux aimer mieux, c'est pas avoir des préférences, ça c'est correct. Mais de là à détester, quand je vois, mettons, tout le monde à vouloir arracher le chemise sur le dos parce que là, la première fois, on a entendu parler de la PlayStation 5. Ah, maudit de gagner, pépépé. Comment ça, maudit de gagner? Maudit de gagner, moi, je sais pas comment tu fais pour en arriver à analyser ça comme ça. Ça marche pas, là.
Salut la gang, salut Marc, as-tu essayé Assassin's Creed Valhalla? Je suis en train de terminer Ghost of Tsushima, que j'adore, et je me demandais si le jeu d'Assassin's Creed va être aussi bon.
Aussi bon, encore une fois, il y a toujours une question de goût. C'est pas le même type de jeu. Le Assassin's Creed Valhalla va être à peu près, ben, je pense, je ne l'ai pas essayé encore parce qu'on n'a pas eu les codes, on n'a pas eu les jeux. J'imagine que ça va être dans la lignée des autres Assassin's Creed, de la façon que le jeu va être fait. Parce que depuis, depuis presque le début, les jeux Assassin's Creed, c'est beaucoup répétitif. C'est des très, très gros jeux. Regarde, sur Odyssey, moi, je pense que je suis rendu pas loin de 150 heures.
Ouais.
Mais quand tu décortiques ça, tu dis, en temps réel, sans faire tout le temps du répéter de la même mission, là, qui est juste à différents endroits, mais tu répètes tout le temps la même chose, ben tu peux couper ça quasiment du deux tiers. T'sais. Fait que c'est le fun. Oui, tu as du plaisir, mais en même temps, c'est répétitif.
Okay.
Des fois, tu as peut-être un jeu plus linéaire, mais que tu as une histoire de A à Z qui va t'amener vraiment comme une ligne, comme un film un peu. Moi, j'aime mieux ça. Ça dépend des goûts. C'est beaucoup des goûts là-dedans.
OK. On revient à notre guerre des consoles.
Ouais, on va faire ça vite, je pense. Hein?
On a du temps, man.
On a du temps, man.
La salle des nouvelles peut attendre.
Oh oui.
Ben, justement, avec l'arrivée de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas parler des guerres des consoles, puisque, bon, oui, d'un certain sens, ça va en être une autre. Puis, d'après toi, ça remonte à quand, toi, les guerres de consoles?
Ben, nous, on s'en était déjà parlé. Je pense que ça monte, mettons, dans les années 70.
OK. Mettons entre 70 puis 76, là, on peut pas dire qu'il y avait vraiment beaucoup de consoles et beaucoup de guerres. Là,
moi, je me souviens du Coleco et du Atari. Moi, je ramassais les affaires ce que les gens voulaient plus. Là. Ouais. Je me souviens du Atari et du Coleco.
Ouais, deuxième génération.
Ça, c'est la deuxième génération.
C'est ça.
La première, c'était quoi?
La première, c'était les Fairchild Channel F. C'était les Magnavox Odyssey. Toutes ces affaires-là, que je pense que tu nous en dis ça. À chaque fois que je dis Magnavox ou Dizzy, tu me dis « Ah, il y a un tel! »
Oui, Sam Genet. Sam Genet, Sam Girard.
Sam Girard. Bon, ben c'est ça. Toutes ces consoles-là, là, qui étaient quasiment monochrome, avec pas de son ou trois sons, juste deux barres blanches puis une balle dans l'écran qui était comme le Pong, là, le fameux Pong que le monde connaît aujourd'hui. Fait que tu sais, c'était pas des jeux super intéressants. Puis si tu recules même dans les années 80, toi, t'es plus dans mes âges. Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais jeune?
Je faisais quoi?
Que tu faisais? Tes occupations du temps, c'était quoi?
Ben, j'allais souvent à l'extérieur jouer au hockey, là, mais quand j'étais à l'intérieur, je jouais à Joust, je jouais à Dig Dog, je jouais à Pac-Man.
Ouais, t'allais dans des arcades, j'imagine.
Je jouais à Donkey Kong, puis oui, effectivement, quand j'avais
la
chance...
On s'entend que le plus gros de notre temps,
quand j'avais la chance de voler 5 piastres à ma mère, j'allais aux arcades.
C'est ça. Mais on jouait dehors.
Oui.
Le gros de notre temps, c'était de jouer dehors. Fait que, c'est pour ça que je te dis que les consoles du temps, oui, ça a pogné, mais ça n'a jamais été la grosse affaire.
Ouais.
Fait que les guerres dans ce temps-là, c'était un petit peu... c'était pas comme aujourd'hui.
Ouais.
Va falloir attendre la troisième génération, vraiment, jusqu'au Japon en 83. Nintendo arrive dans le décor, lance la Famicom. La Famicom, ça c'est au Japon, mais la même console, ici, elle s'appelait la NES. Okay? La Nintendo Entertainment System. Sega en 85, lui, lance la Master System. À peu près la même affaire. C'est des consoles 8 bits, les deux, avec ton fameux Mario Bros. Qui arrive là-dessus. T'as The Legend of Zelda qui arrive là-dessus. Du côté de Sega, tu vas avoir d'autres jeux aussi qui vont être là-dessus, un peu dans le même genre. Puis là, ben, ça va commencer tranquillement à faire une petite guerre entre les deux, mais pas beaucoup, pas encore. Là. On commence à réchauffer les choses, mais pas plus qu'il faut. Tu vas avoir une télévision qui va essayer de lancer le modèle 3, Atari qui va essayer de lancer le modèle 5800. Tous les deux, ça va faire patate. Oublie ça, ça n'a rien à voir, ça ne réussit pas à côté autant la NES que la Master System de Sega. Pour donner une idée, Sega perd quand même face à Nintendo parce que Sega va réussir à vendre à peu près 18 millions de son Master System contre 61 millions de la NES. Fait que, tu sais, oui, Nintendo a le vent dans les voiles, puis surtout Mario et toutes ces franchises-là vont avoir le dessus. Ça va sauter à la quatrième génération. Là, c'est là qu'on va vraiment avoir le début des hostilités un peu plus. Où ce que là, ben, là-dedans, tu vas avoir un autre joueur. T'as-tu déjà connu ça, les ordinateurs NEC, NEC?
Non. Moi, mon premier ordinateur, c'était un Commodore 64.
OK. NEC, qui est un super gros constructeur d'ordinateurs, principalement au Japon.
Ouais.
C'était très, très gros. Ils ont essayé, eux autres, ils ont lancé la PC Engine. La PC Engine, ici en Amérique, ça s'appelait la TurboGrafx-16. là-bas, ils lancent ça au Japon en 87. C'est considéré comme étant la première console 16 bits, même si c'est réellement pas une réelle console 16 bits. Mais ça fait quand même la job pour arriver dans la quatrième génération. En 88, Sega arrive, puis lui, il dit « Moi, je lance la Mega Drive. » La Mega Drive, c'est le penchant japonais de la Sega Genesis ici en Amérique. Elle, c'est une vraie 16 bits, puis là, ça paraît. Fait que là, déjà là, NEC commence à avoir une certaine concurrence, mais NEC a un an d'avance. Fait que, tu sais, il en profite pareil, ça a pogné quand même assez au Japon. NEC revient en 88, il dit « On va rajouter quelque chose de plus, on va rajouter un lecteur CD-ROM. » Les premiers jeux CD-ROM, comme je t'ai parlé une couple de fois,
ouais.
C'est NEC qui va arriver avec ça sur le marché japonais, qui va l'introduire en Amérique un peu plus tard sur la TurboGrafx, ça va être la TurboCD. Puis là, ben ça va permettre des jeux, avec comme la dernière chronique qu'on a fait, avec de la vraie musique, des vraies voix, des choses comme ça, au lieu des petits blip-blip-poupiou plates qu'on entend habituellement. Là, après ça, bien évidemment, plus tard, tu vas avoir SNK qui a lancé la Neo Geo. Neo Geo, ça te dit quoi? Il me semble que tu m'avais dit que oui.
Ben, je
ouais, OK.
Je
console hyper puissante. Ouais. C'est, ben, pas 16 bits. Elle, c'est une 24 bits.
C'était quoi les jeux populaires là-dessus?
T'avais Magician Lord, t'avais un jeu de baseball que je me rappelle jamais. Les titres, je me rappelle plus de tous les jeux, mais t'avais okay. beaucoup de jeux de combat. Je pense que c'était Fatal Fury qui avait là-dessus, des choses comme ça. C'était hyper puissant. Des graphismes vraiment poussés pour le temps, comparativement aux autres consoles 16 bits.
Ouais.
Au niveau sonore aussi, parce qu'il y a plusieurs canaux de son là-dedans, mais tellement cher que oublie ça, les autres sont tellement, c'est à peu près, je pense, c'est le double du prix. Fait qu'oublie ça, ça réussit pas à percer le marché, c'est trop cher malgré, tu sais, on dirait qu'ils sont arrivés avec une technologie trop en avance ouais. sur leur temps.
Comme les premiers ordinateurs.
Exactement, fait que ça a pas levé pour ça. Nintendo 90-91 arrive, puis là, il dit « OK, on arrive avec la super Nintendo ouais. Entertainment System. »
Ça, je l'ai.
Là, elle, par exemple, oh my God, là, ils ont eu un petit peu plus de temps pour peaufiner la machine. Même si la machine, malheureusement, dans les jeux de tir, tu sais, les jeux de navette que tu tires des vaisseaux spatiaux, mm-hmm. de même, la machine, elle a des super beaux graphismes, là, vraiment les plus beaux de toute cette génération-là, mais souffre de ce qu'on appelle des slowdowns, des ralentissements d'image quand c'est trop chargé dans l'écran. Là, tu vois que le processeur, il commence à... Il y a de la misère, tu sais. Mais aussi, elle a un processeur de son dedans qui est superbe, qui donne une musique qui n'est pas une musique à hauteur d'un CD, bien entendu, mais qui donne de la musique vraiment plus... C'est moins agressante, puis beaucoup plus mélodique, beaucoup plus le fun pour les oreilles. Fait que Nintendo, encore une fois, à ce stade-là, va venir le leader, si tu veux, avec la Genesis. NEC va perdre du terrain là-dedans. Puis d'ailleurs, dans cette guerre-là, moi, ce que j'ai toujours aimé entre les deux, c'est qu'à un moment donné, les deux vont être nez à nez, même que Nintendo va prendre le lead. Puis Sega va voir se battre, puis là, ils vont commencer à sortir des genres de publicités à la TV, des publicités dans les revues, mais vraiment plus coup de poing, là. Tu sais, vraiment agressive. Là. Moi, je me rappelle, ben, Nintendo, quand ils ont sorti la Nintendo Entertainment System, le slogan, c'était « Now you're playing with power ». Okay? Maintenant, tu joues avec de la puissance. Puis quand ils ont sorti la Super Nintendo, là, ils ont juste rajouté « Now you're playing with power, super power okay? ». Super power. Genesis se vire d'abord et décide « Nintendo, on va faire un beau jeu de mots, toi, avec Nintendo ». Ils vont dire, parce qu'ils ont plein d'exclusivités, genre... Ben, d'exclusivité.
Sonic?
Ben, ils ont
Sonic est sorti oui. en 91?
Dans ces eaux-là, oui.
Parce que puis, ça, c'était le jeu le plus populaire quand ça
oui,
sortit.
Oui, puis les jeux sur Sega Genesis n'avaient pas de ralentissement, en tout cas beaucoup moins. Avec des jeux comme Sonic, c'était hyper rapide comparativement à Nintendo. Donc, ils se mettent à marteler sur Nintendo. T'as du pouvoir, mais t'as pas de vitesse, t'as pas ci, t'as pas ça. Les jeux les plus rapides, c'est sur Genesis. Puis Genesis oriente son marketing vers les joueurs plus âgés un peu. Fait que là, ils vont arriver avec des jeux comme Mortal Kombat,
ouais.
quand ça a sorti.
Ça, c'était malade.
Mais quand c'était adapté sur le Super Nintendo, Mortal Kombat, il n'y avait pas de sang ou c'était du sang vert.
Mais tu sors Mortal Kombat en 2020, ouais. là, il y a des manifestations de bonnes femmes dans la rue.
Ouais, je pense que oui.
La violence.
Et là, ben, tout le monde était comme outré parce qu'à l'arcade, c'était du sang dans Mortal oui. Kombat, mais là, sur la Super Nintendo, c'était pas ça. Genesis... Fait une affaire.
C'était avec dans Mortal Kombat, le fameux finish him?
Oui, exactement. Oh. Les fatality. Puis les finish him. Ouais.
C'était avec, violent.
Ça,
tabarouette.
Ça, il y avait tout ça sur la Genesis. Puis il y avait un code pour activer le sang rouge. Fait que là, c'était la
T'es
grosse
folie.
Ouais. Fait que là, ce gars, lui, lance une pub qui s'appelle Genesis Does What Nintendo Don't. Le jeu de mots, mon gars, là, wow. Marteau, là, moi, je l'ai toujours trouvé excellent. Ouais. Toutes les pubs t'as faites de la même, c'était vraiment génial. Ensuite de ça, si on avance un petit peu plus, pour la préparation de la cinquième génération, ça a été vraiment fucké parce que là, il y a Panasonic qui a essayé de rentrer dans la course avec la 3DO.
Ouais.
Se sont pété les dents. Atari essaye avec le Fiasco, on va dire, qui est la Jaguar, qui était supposée une 64 bits, qui n'est pas ça pantoute, mais qui, encore une fois, se pète les dents.
La Atari Jaguar.
Ouais, la Jaguar. Super belle console au niveau design.
Ouais.
Beaucoup de belles idées, mais un fiasco au niveau du marketing. Encore une fois, comme je t'ai dit, ils ont essayé de vendre ça comme une 64 bits quand c'était pas vrai. C'était deux processeurs 32 bits qui fonctionnaient comme côte à côte. Okay. Puis les gens n'ont pas aimé ce genre de crosse-là. Okay.
Est-ce que ça, c'était disponible au Canada?
Oui.
Ah ouais, j'ai jamais vu ça.
Ouais. Ensuite de ça, ben, Sega essaye encore une fois de revenir de l'arrière avec la Sega. Ben, il a essayé la Sega 32X, qui était un attachement que tu mettais sur ta Genesis pour transformer ta console, si tu veux, en 32 bits. Mais c'était pas vargeux, OK? C'était clunky un peu. Les jeux qu'il y avait là-dessus, c'était pas vraiment superbe. Mm-hmm. Fait que ça a pas marché. Fait que là, Sega retourne la planche de dessin. Un petit peu plus tard, revient. Encore là, ça, c'est une autre affaire. Sort deux affaires quasiment côte à côte, dos à dos. Fait que là, ils sortent la Sega Saturn. Sega Saturn qui aurait été une belle console, qui aurait été une bonne console, mais encore une fois, boudée, fonctionne pas, les ventes sont pas là. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là? Je sais pas si vous vous rappelez, on l'a parlé une couple de fois, mais Sony, au début, hein, ils jasaient avec Nintendo pour faire un lecteur CD, comme j'ai parlé dans la dernière chronique, pour la Super Nintendo. Puis là, à un moment donné, Nintendo et eux autres ont dit « Ah non, on veut pas, on croit pas à ça, le format CD, pépépépé, ils décident de retirer leur bille. » Sony, frustré, se dit « Attends un peu, là. Ça marchera pas demain, on va sortir tout seul notre console. » Ils sortent la PlayStation. Puis là, la PlayStation, quand ça arrive, ça fait un méchant dégât. Là, elle prend toute la place. Je te dirais que... Regarde, il n'y avait plus rien d'autre autour. Ça a fait vraiment, ça a passé à la gratte. Fait là, sixième génération, Sega essaye avec la Dreamcast, la première 128 bits.
Oui.
Première, encore une fois, console super puissante avec des belles exclusivités là-dessus. Tu avais Resident Evil Code Veronica, qui est un jeu, pour ceux qui connaissent la franchise Resident Evil, tout le monde capotait, tout le monde voulait ça. Fait que c'était un bon argument de vente pour la console, mais malheureusement, il y a beaucoup de jeux qui étaient au Japon, qui ne venaient pas en Amérique. Puis la console, peut-être encore une fois, trop chère pour le marché, trop en avance. C'était pas prêt. Les gens étaient pas prêts.
Steve dit « Merci à Marc de me faire penser que j'ai les consoles dans mon cabanon. » Mais c'est vrai.
Ça vaut peut-être quelque chose.
Ouais, mais tu sais, à un moment donné, il y avait pas de Facebook Market comme on le connaît aujourd'hui. T'sais, tu pouvais vendre ça à tes chums, mais des fois, tes chums voulaient la nouvelle génération de consoles aussi.
Ouais.
Mais moi aussi, là, je pense que mon premier Nintendo est encore chez nous dans une boîte là, quelque part. Là.
Amène-moi ça.
J'ai jamais acheté ça. Jamais, jamais. Je dois avoir encore des cassettes.
Oui, c'est sûr.
Faut souffler, hein?
Non, tu fais pas ça. Je t'avais dit,
c'est ce qu'on faisait avant.
Ben, il faut pas.
Ben, ça marchait.
Non, ça marchait pas. Dans ça marchait tête. Juste sur un petit temps. Cours. Après ça, ça fait de l'oxydation sur tes petites choses en métal. Sais.
Mais ça, c'est tout le temps Duck Hunt qui m'énervait. Ça me faisait tout le temps ça avec Duck Hunt.
Ouais. Mais faut pas que tu tires le fusil dans la TV, là.
Oui, ça aussi, je l'ai fait. Mais c'est parce que, il me semble que la manette est attachée après la console dans le temps. Hein?
La main, ouais, t'avais un fil.
Ouais, c'est ça. Ah oui. Tu tirais dessus, puis d'un coup, ça faisait comme un effet élastique.
Ouais, non, mais
là.
Il fallait pas que tu fasses ça, c'est ça.
C'est ce que j'avais fait à croire à ma mère.
On continue?
Pas de ma faute.
Fait que cette sixième génération-là, ben, t'as Dreamcast, comme je t'ai dit, mais là, Sony arrive en 2000, lance la PlayStation 2, qui va être la première console à franchir 100 millions d'unités vendues de l'histoire. Il fait le ménage, ça capitalise sur la PlayStation 1, la première des choses, au niveau de la base de gens, parce qu'il y a beaucoup de détenteurs de PlayStation 1 qui vont faire le move sur la 2. Puis aussi, ce qui va aider beaucoup Sony à ce moment-là, c'est que Sony vont proposer un lecteur DVD à même la console. Les jeux vont être sur DVD. Dans ce temps-là, quand tu voulais t'acheter un lecteur DVD...
Il était en part.
Oui, puis il t'achetait ça. Ça coûtait 600-700$.
Hein?
Ben oui, les premiers lecteurs DVD vont faire un tour sur Catalogue du Québec, là, sur Facebook.
Moi, j'ai jamais acheté ça.
Méchante belle page en passant, allez voir ça. T'essaieras ça, tu vas avoir des lecteurs CD qui sortaient de Toshiba, lecteurs DVD, puis tabarouette, les prix, c'était absolument débile. Fait que là, t'avais une console pour un petit peu moins cher qui te permettait de jouer à des jeux vidéo, puis te permettait de lire tes films aussi. Fait que ça a donné un super avantage à, à Sony là-dessus parce que c'était vraiment une chance en or de faire une pierre deux coups. Tu as le géant américain Microsoft qui arrive puis que lui, en 2001, lance la Xbox. Ça va avoir un succès pas si mal, mais encore là, autant ben, tu vas avoir Nintendo aussi plus tard qui va lancer sa GameCube, qui est moi, une console que j'adore encore aujourd'hui. Mais si tu prends juste les chiffres là, pour te donner une idée, hein, la PlayStation 2 va vendre au complet 155 millions de consoles, Xbox en arrière à 25. On est loin, là. On est loin.
Puis moi, j'avais acheté une Xbox.
Ouais. Puis GameCube 22, puis la Dreamcast 8.
OK.
Hein? Ça te donne-tu une idée qu'on est loin pas mal? Fait que là, 7e génération, qui est juste la précédente de celle qu'on est présentement, Microsoft dit, moi, je vais être la première à sortir une console de ce coup-là. Lance la Xbox 360 en 2005.
Elle était quelle couleur, elle?
La première, c'est parce qu'il y a eu plusieurs couleurs. Je me rappelle
que
pas,
la première était blanche.
Ou argent, quelque chose comme ça.
Okay, dans ma tête, elle était blanche avec le signe Xbox vert fluo.
Oui, c'est ça, comme petit rond. Là.
Ouais, c'est ouais, ça.
C'est ça, exact.
Et toi, tu dis argent?
Oui, parce qu'il y a eu plusieurs modèles. Ils ont révisé plusieurs modèles dans les premières années. Puis je me rappelle pas, la première, c'était laquelle? C'était un genre de gris ou argent, quelque chose comme ça. Faudrait revérifier. Fait que là, ben, cette console-là, oui, c'est la première console qui arrive avec un port HDMI qui permet de jouer à des jeux HD. Mais les premiers jeux HD, tu sais, c'était à 720p, c'était pas le full HD encore. Sony contre-attaque avec la PlayStation 3, mais lui arrive avec la totale, la limousine, méchante machine. Tu me montres trop d'affaires.
Mais c'est Xbox 2005, ouais. Fait que t'en as noir, mais...
Ouais, c'est ça. Mais c'est parce
moi, c'était la blanche que j'avais acheté.
Ouais. Je pense à quelques mois de différence, ils ont sorti des révisions.
OK.
Fait que chaque révision, des fois, avait des couleurs différentes.
Voilà.
Fait que là, c'est ça. PlayStation arrive, lance la PlayStation 3, qui est une super belle console, mais si tu parles aux gens, les développeurs la trouvent très, très, très difficile parce que Sony ont essayé de faire de quoi de tellement compliqué puis tellement puissant que ça décourage les développeurs de prendre cette console-là pour être la première pour développer les jeux dessus puis adapter après ça sur les autres. Fait que ça a fait le contraire. C'est devenu la Xbox 360 qui, au fil du temps, est devenue la console de prédilection pour développer. Puis ensuite, on essayait d'adapter ça sur la PlayStation 3. Mais à cause de la façon que les shaders puis les choses comme ça, ce qui fait des ombrages puis ouais, de trucs comme ça, la lumière, ben c'était tellement complexe que souvent, tu avais l'impression que le même jeu sur la PlayStation 3 est un petit peu moins beau. Fait que là, les gens, ils boudaient un peu la PlayStation 3. Ça a été long. Il y a Nintendo, dans cette génération-là, qui a été probablement le grand vainqueur. Ils sont arrivés avec la Wii. T'en rappelles-tu de la Wii?
Oh, oui. Tout le monde trippait là-dessus, puis moi, ça me disait absolument rien.
Je te dirais que si tu demandais à tout le monde qui a acheté une Wii, où est-ce qu'elle s'est ramassée, ils vont tout dire comme tantôt, dans le garde-robe, puis ça a été quand même assez vite.
Ouais. C'est ouais, en quelle année, ça, la Wii?
La Wii en 2006.
OK. Puis ouais, y a-tu une deuxième version de la Wii?
Il y a eu la Wii HD.
Okay. Oui.
Ils ont sorti des révisions comme ça parce que la première Wii, c'était une Wii normale standard qui prenait les écrans standard du temps.
Okay.
Puis après ça, ben justement, à cause de Xbox 360, la PlayStation 3, puis les consoles comme ça qui étaient HD, full HD, ben là, Nintendo avait l'air un peu fou, son format 4.3, écran cathodique.
Ouais.
Fait que là, ils sont arrivés avec une révision qui appelait la Wii HD, qui là, te permettait d'avoir des graphismes haut de...
Puis la Wii U, c'était à quelle année, ça?
Ça, c'est après.
OK, parce que j'ai commencé à travailler ici en 2011. Je faisais les week-ends. Puis à un moment donné, quelqu'un qui m'a appelé à 5h40 pour me jaser. Je voulais la ligne clignoter. J'étais pas encore en onde. Je me préparais dans le studio dans ce temps-là. Puis le gars, il me dit, j'étais en train de faire la file au Walmart, au Saguenay.
OK.
Pour la Wii.
Pendant la nuit, là. Ouais. Là, je dis, il y a combien de personnes? Il y avait peut-être une dizaine de personnes qui étaient en file.
Oui.
Fallait-tu vouloir?
Mais bizarrement, cette génération-là de la Wii, pas de la Wii U, mais qui a été remportée, la septième génération a été remportée par Nintendo quand même. Mais les deux, le combo, la guerre de consoles, c'était vraiment entre la PlayStation 3 et la Xbox 360. Mm-hmm. Que les deux se frappaient dessus à qui mieux. Puis le problème que Nintendo, pas Nintendo, mais que Microsoft avait, c'était vraiment au niveau du lecteur. Parce que tu te rappelles-tu quand il y a eu le genre de combat aussi, la guerre pour les formats Blu-ray versus HD DVD de Toshiba? Ouais. Ben là, c'est ça. Microsoft avait décidé de s'appuyer puis s'associer avec Toshiba pour soutenir le format HD DVD. Puis Sony, ben lui, c'est son propre format, le Blu-ray, ça y appartient, c'est à lui. Mm-hmm. Puis c'est finalement le Blu-ray qui a réussi haut la main à franchir, tu sais, qui a été adopté par tout le monde.
Wii U, j'ai la date, 18 novembre 2012.
Tu me l'avances.
Ah, tu l'avais?
Ben oui, oui.
Ah, voilà.
J'ai tout, man. J'ai tout. On va y aller tout de suite, là. T'as l'air pressé.
Moi, je voulais t'aider.
Ben vas-y, regarde, tu viens de le dire. 8e génération, Nintendo arrive, lance la Wii U en 2012. Wii U, encore une fois. Nintendo, là-dessus, va lui donner ça. Ils sont quand même assez, assez game d'arriver avec des concepts spéciaux pour les consoles ou les manettes. Fait que là, tu arrives avec la Wii U, hein, avec un genre de gros pad, que tu as un écran dans le pad, puis tu joues avec ça. Tu as des choses qui se passent à l'écran de ta télé, puis en même temps aussi dans l'écran de ta manette. Fait que c'est quand même assez spécial comme genre de format hybride. En 2013... super gros lancement pour PlayStation, la PlayStation 4 de Sony qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, qui remporte un super succès au niveau des développeurs aussi parce que la structure de la PlayStation, enfin, est hyper facile à développer. Fait que là, ils gagnent tout le monde là-dedans. Même les petits studios indépendants, ils sont tous là-dessus. On fait des jeux. En 2013 aussi, ben, quelques semaines après PlayStation, Microsoft lance la Xbox One. Puis là, ça va être un combat entre les deux qu'on a présentement encore, qui va arriver à sa fin dans quelques mois.
Ouais.
Mais on peut pas dire que la lutte a été très, très chaude parce que, mettons que Sony, encore une fois, a eu les vents dans les voiles, puis file devant tout le monde. C'était la deuxième console à franchir le 100 millions de consoles vendues, 100 millions d'unités. Puis c'est encore une console Sony après la PlayStation 2.
Ouais.
Ils ont deux consoles de 100 millions dans à leur actif. C'est quand même pas rien. Pis si tu prends les chiffres, si je me rappelle bien, présentement, même Microsoft s'est fait dépasser par la Switch, qui va arriver un peu plus tard. Là, on va sauter tout de suite là.
Mm-hmm.
Mais la Switch, depuis qu'elle est arrivée en 2017, la première année, ça a été dur parce que les gens n'étaient pas sûrs du format. Il n'y avait pas encore assez de jeux. Mais au bout d'à peu près un an, là, je dirais qu'en 2018, là, la Switch elle s'est mise à s'envoler. Puis tabarouette, les ventes n'ont pas lâché deux minutes. Puis oui, c'est une bonne console. C'est une console qui est le fun parce que tu l'amènes chez toi, tu mets ça sur ton dock. Ta partie, tu lâches jamais ta partie. Tu arrives avec ta console, tu l'amènes au travail, ben, tu joues avec au travail. Tu arrives chez vous, tu fais juste la docker.
Mais quel genre de job t'as, toi?
Je travaille pareil. Fait que là, ben, c'est ça. Finalement, Sony va remporter cette manche-là pour l'instant, on va dire. Là, ils sont encore à 112 millions de consoles vendues.
Ouais.
Nintendo, un petit peu plus que 60.
Okay.
Puis Microsoft, la Xbox One, sont derrière à 48. Malheureusement, ils ont perdu devant Nintendo. Ça, c'est fâchant pour eux.
Mais on en parlait en début d'entrevue avec le confinement et tout. Est-ce que ça a provoqué une espèce de course à sortir une nouvelle console? Parce que c'est ça, on est rendu à 2020, là.
Ça n'a pas provoqué une course, parce que ça a plutôt été le contraire. Il y avait des intentions. Tout le monde savait qu'il était en train de travailler sur une nouvelle console, tu sais, chez tous les constructeurs. Sauf qu'avec la COVID, là, tu mets tout le monde qui travaille chez eux.
Ouais.
Tu n'as plus accès à un paquet d'affaires. Tu ne peux plus travailler avec tes équipes comme tu travaillais avant. Toutes les manufactures sont toutes arrêtées.
Ça a été ralenti.
Ça a été ralenti. Okay. Fait que ça les a obligés de repenser un peu. Puis de peut-être. Puis même qu'au début, vois-tu, les deux consoles étaient supposées. Ben, ils sont supposés de sortir pour le mois, on va dire pour novembre ou décembre.
Okay.
Pour les fêtes. Puis il y a eu un moment donné où on s'attendait à ce qu'on ait des annonces qui disaient « Ah, finalement, ça ne fonctionnera pas » à cause de COVID qui a fait ralentir pas mal le processus de partout. Ce n'est pas juste un constructeur ou un autre, c'est toute la gang.
Okay.
Fait que c'est ça. Présentement, ben, c'est ça. Nintendo est bon deuxième. Puis à vitesse que ça va dans le ventre, je te dis que ça va bien leur affaire. Puis ça, ben, on ne sait pas. Là. La prochaine génération qui s'en vient, comme je l'ai dit tantôt, PlayStation 5 contre la Xbox Series X.
Mm-hmm.
Deux mentalités qui vont être carrément différentes. Ça va être le fun à voir aller. Je pense que ça va être deux consoles qui vont devenir quasiment plus complémentaires que concurrentes à cause de la façon que les choses vont se présenter là-dessus, les services qu'ils vont avoir, le type de jeu. Moi, je pense que les exclusivités de PlayStation 5 vont être de meilleure qualité que ceux de Microsoft, parce que Microsoft, veut pas, vont être obligés d'adapter leur jeu sur plusieurs plateformes dans le service. Parce que tu vas acheter, mettons, le jeu sur Xbox One présentement, tu vas avoir la version Xbox Series X quand elle va sortir gratuitement. Ce qu'ils vont dire, qu'ils vont t'envoyer une mise à jour avec un paquet d'améliorations de texture, puis bon, ben, toutes ces choses-là pour améliorer le jeu. Sauf que quelqu'un qui a un PC, parce que Xbox fonctionne avec un ordinateur aussi, l'environnement Xbox puis Microsoft, si tu veux, fonctionne tout ensemble. Quelqu'un qui a déjà un PC ne se sentira pas obligé d'acheter tout de suite la console d'Xbox. Il dit, ah, ben moi j'ai un PC, je vais le prendre sur PC. Je vais continuer avec le PC. À la place, je vais peut-être préférer aller vers la PlayStation 5, mettre mes sous là, attendre quelques années, puis après ça, m'acheter une Xbox Series X. Fait que c'est peut-être là que ça va peut-être causer un petit problème au niveau de Xbox. Mais encore là, ce que je te disais tantôt, c'est que leur idée, c'est plus de se battre au niveau des services, puis de dire, ben moi, peut-être que je veux rapatrier le plus d'abonnements possible pour que ça en rapporte le plus d'argent possible. Fait que c'est pour ça, tantôt, je te disais, ça va être quoi la lutte? Sur le nombre de consoles que tu vends, sur le nombre d'abonnés que tu as à tes services, sur le nombre d'argent que ça te rapporte au bout de la ligne, c'est ça qui va être différent.
Quelqu'un qui te pose la question, je ne sais pas si tu as la réponse, là, mais anyway, je suis là en backup avec mon Google favori. Quel a été le jeu le plus populaire de tous les temps, selon Marc?
Hey, je l'ai vérifié il n'y a pas longtemps, puis avec ma mémoire de poisson rouge, je m'en rappelle.
OK. À ce jour, là, ce serait un jeu qui a été mis en place en 1984. Ce serait Tetris.
Ah oui.
J'ai tellement joué. J'ai dit que j'avais pas joué aux jeux vidéo, mais ça, j'ai tellement joué sur mon vieux PC.
En troisième position, c'est GTA V.
Oui.
En quatrième position, c'est Wii Sport.
Ça se peut.
Ça, c'est en 2006.
Ouais.
Mais mettons que je te dis le nombre d'exemplaires vendus, là, Tetris, là, c'est 170 millions, Marc.
Mm-hmm. C'est fou, hein?
170 millions. Puis GTA V, c'est 135 millions. Puis si je regarde Mario Bros, parce que moi,
à vue de nez, j'aurais dû
Super Mario Bros, le jeu le plus vendu, c'est 40,24
c'est
millions.
C'est pas tant que ça. Hein?
C'est pas tant que ça. Mm-hmm. Puis Tetris, ça demeure à ce jour le jeu le plus populaire. Sauf que, il y a un jeu qui va sortir en 2021 qui s'appelle Kanga.
Ah.
Kanga, il y aurait 201 millions d'exemplaires de commandés.
Ah ouais?
Ouais.
Bon, ben il faudra que je regarde, je connais même pas ça.
Non, moi non plus. Puis des jeux hyper populaires du temps, là, Pokémon, 1996, 31,38 millions.
D'ailleurs, ça, t'as-tu vu les genres de vidéos que les gens font sur YouTube là, avec les comparatifs, les ventes avec le temps? Que t'as des barres qui montent avec le nombre de ventes selon le temps, puis là, t'as des jeux qui se rajoutent. C'est vraiment bien fait, là, parce que tu vois tout ça. T'sais, tu passes l'évolution. Année après année l'évolution, puis là, un arrive, puis là, Tetris prend la tête, puis là, un autre prend la tête. Hey, Minecraft aussi, là, doit être parvenu les meilleurs vendeurs. Là.
Il n'est pas là.
Il n'est pas là.
Il doit y avoir une raison, là, à moins que j'ai pas descendu assez bas. Il ne serait pas dans les 50 premiers.
OK.
Alors c'est bizarre, que... C'est un des jeux qu'on a entendu parler, pas pire.
Beaucoup.
Duck Hunt, 18e position.
Hein?
28,3 millions d'exemplaires vendus. Duck Hunt, 1984.
Eh ben.
Si je descends un petit peu plus bas, Mario Kart, 2005, 29e position, 23,60 millions d'exemplaires vendus. Puis des jeux, les Sims 2, 20 millions d'exemplaires. Battlefield 3, 20 millions.
Attends, t'en as une méchante trollée comme ça. Là. Des fois, quand tu regardes ça, c'est intéressant là, d'aller voir ça. Là.
J'ai joué aux Sims aussi. Finalement, j'ai joué aux jeux vidéo.
Ben oui, t'es une gameuse pareil. Tu voulais pas. Parce que gameuse en passant.
J'ai jamais
là...
eu de console. Ouais. C'est peut-être ça qui me fait
rire. Moi, ça me fait rire parce que des fois, j'ai des amis de filles. Tu sais, je leur dis, puis toi, t'es-tu gameuse un peu? Ouais. Puis là, oh non, je joue pas à ça, moi. Puis, OK. Là, t'arrives à côté d'elle, quoi tu fais? Je joue à Candy Crush. Mais c'est quoi ça, tu penses?
C'est une game.
C'est un jeu. C'est un jeu vidéo pareil, là.
Ouais.
Fait que quand tu regardes surtout Facebook et toutes ces choses-là, les Candy Crush de ce monde, là, t'as pas pour rien qu'ils font de l'argent comme de l'eau, c'est des genres de petits jeux-là.
Ouais, là, j'ai regardé dans l'est, j'étais un peu déçu. Le démineur n'est pas dedans. Qu'on avait sur nos ordinateurs.
Oui.
On a joué en masse à ça aussi.
Ouais. Tu comprenais le principe, toi?
Pas tant.
Ouais. Je pense que tout le monde qui essayait de jouer à ça avait de la difficulté à comprendre le principe. Là.
Ben, tu pourrais regarder, je pense que c'est la page Facebook des amis du jeu C'est sérieux. Il y a un des copains qui joue à ça, je pense, à tous les midis.
Ouais.
En live. Là.
Au démineur.
Ouais.
En live?
Ouais. À chaque fois que je vois ça, mais je comprends rien. Donc je décroche.
C'est de plus en plus populaire. Des plateformes comme Twitch, là, ça te permet d'aller voir du monde jouer. L'autre jour, j'ai vu un gars, je pense qu'il était simultanément sur Twitch puis sur Facebook. Il jouait à NHL.
Ben oui.
Puis il y a des gens, je pense qu'on était 125 à regarder le gars jouer à NHL.
Mm.
C'est bizarre, hein? On est en manque de hockey.
Ben, ils sont rendus avec des commanditaires. Il y a des gars qui vivent de ça.
Ouais.
Parce qu'ils gagnent des concours, mais aussi parce qu'ils ont des commanditaires. C'est rendu des influenceurs sur Twitch.
Ah oui.
Ouais.
Oh, on me dit que Duck Hunt était vendu avec la console dans le temps.
Ouais.
C'est peut-être la raison pour laquelle il était hyper populaire.
Oui, mais même la Nintendo Entertainment System, comme on disait tantôt, il n'a pas eu tellement que ça de vendu. J'ai dit quoi, 48 millions, quelque chose comme ça?
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est quand même... Ben, c'est beaucoup, oui, surtout pour le temps, mais je veux dire, ça en est vendu quand même plusieurs années après, pareil. Là.
OK.
Non, c'est...
On va faire une courte pause. On est avec Marc Desgagnés d'M2 Gaming. Marc, pour les gens qui veulent entendre parler de jeux vidéo, de critiques de jeux vidéo, on peut vous retrouver à quel endroit?
Ben, notre site web, www.m2gaming.ca, sur notre chaîne YouTube. Hein, faut faire M2 Gaming Canada, très important. Puis aussi, ben, notre Facebook puis notre Twitter, qu'on continue à mettre plein de choses à tous les jours.
Pourquoi M2 Gaming Canada? Vous êtes rendu international?
Non, parce que M2, ben M2, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que c'est moi et mon ami Martin, donc Marc et Martin.
On c'est moi et Martin?
Oui, moi et Martin, Martin et moi, mais c'est les lettres de notre nom. M pour deux M, ouais. M2, puis Gaming, c'est Gaming, puis Canada. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des M2 qui existaient de toutes sortes d'affaires. Mais là, on s'est dit, ah ben ouais, c'est plate. Bon, ben, quand on est arrivé sur YouTube, ben, on a ouvert notre chaîne qui était vraiment M2 Gaming Canada pour spécifier que c'était vraiment plus nous autres.
Merci beaucoup, Marc.
Merci à vous autres.
Bye bye, à la prochaine. Marceau, le soir. Radio-X.